Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Patrick Grigy. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Anne-Josée Fulgeras qui va exposer sous le porche de Bellem du 1er au 12 novembre. Cette exposition s'intitule « Création complice ». En effet, elle mêlera les merveilleuses lumières de Jean-Pierre Mavitte, les chaleureux tissages d'Anne-Maria Fuensalida et vos bijoux textiles. Anne-Josée Fulgeras, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors avec cette exposition, vous êtes un peu loin de vos premières activités. J'aimerais bien que vous racontiez à nos auditeurs quel a été votre parcours.
Effectivement, loin de mes activités premières, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque pendant plus de 20 ans, j'ai exercé la coupable activité de réprimer mes semblables et essentiellement.
Oui, mais réprimer au bon sens du terme, parce que c'est ceux qui avaient quand même
quelques raisons d'être réprimés, je peux l'espérer. Et j'ai fait ça au sein du parquet de Paris, dont j'ai dirigé la section financière pendant 5 ans, de 1995 à 2000.
Et c'était difficile ce moment pour vous ?
C'était dense. Plein de stress. Ça m'a appris à gérer les conflits. Passionnant, bien sûr.
Et vous avez écrit un ouvrage sur ce sujet ?
Oui, j'ai commis un livre lorsque j'ai cessé ses fonctions au parquet de Paris, qui s'appelait Affaires à suivre, et qui était une sorte d'état des lieux du fonctionnement de la justice française au travers d'affaires un peu particulières que sont les affaires financières, les grands contentieux très médiatiques de ces affaires-là.
Oui, donc vous avez dû rencontrer beaucoup de personnalités, de magistrats connus.
À l'évidence, puisque c'était la période pendant laquelle j'ai dirigé cette section, était précisément celle où ont été traités les très grands dossiers, très médiatiques, l'affaire Elf, les dossiers du Lyonnais, l'affaire Tapie, etc. Et bien évidemment, dans le cadre de mes fonctions, j'étais amenée à, au quotidien, fréquenter tous les magistrats de la galerie financière, à commencer par Eva Joly, Laurence Wisniewski, Renaud Van Ruynbeck, pour ne citer que.
Oui. Et c'était intéressant, compliqué, difficile.
Oui, un peu stressant. Les enjeux étaient importants. Il y avait, en tant que chef de la section financière, une position un peu inconfortable, puisque j'étais en permanence à gérer le niveau technique de mes collaborateurs, magistrats au sein de la section, et puis le niveau politique de la hiérarchie du parquet et de la chancellerie.
Oui. Ça fait peur un peu de juger ses confrères, enfin les magistrats.
Ah, je ne jugeais pas les magistrats.
Non, mais enfin, vous appréciez ce qu'ils faisaient, en quelque sorte.
Nous travaillions ensemble, chacun dans nos fonctions et avec les prérogatives et les pouvoirs que nous donnait la loi.
Donc, oui, c'est ça. Et le politique essayait-il d'intervenir ?
Dès lors que des affaires se situent dans les cercles du pouvoir, il y a toujours cette tentation du politique, bien sûr.
Oui. C'était compliqué parfois, j'imagine.
Oui, parfois délicat.
Parfois délicat. Oui, alors, en fait, vous ne faisiez peut-être pas que ça dans votre métier, dans votre profession.
Ah bah si, ça occupait 14 heures de mes journées. Et donc, à cette époque-là, bien sûr, je n'avais pas beaucoup le loisir de faire autre chose.
Donc, vous avez arrêté en quelle année ?
Alors, c'est probablement tout ce stress qui m'a amenée en 2000. C'est sans doute la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il était peut-être temps pour moi de gagner quelque indulgence dans l'au-delà en passant de la répression à la prévention, pour aider les grandes entreprises à rester dans les clous de la légalité. Et à ce moment-là, ce sont deux grands cabinets d'audit, Arthur Andersen d'abord, puis ensuite Ernst & Young, qui m'ont aidé pendant 5 ans à réaliser ce projet.
Oui, alors ça, c'est, je dirais pas plus intéressant, parce que l'autre partie était intéressante aussi, mais c'est quand même moins de stress, j'imagine.
Oui, mais en même temps, c'était dans la continuité parce que j'avais touché du doigt ce que j'expliquais dans mon livre d'ailleurs, les limites de l'efficacité de la répression sur les entreprises. Et il me semblait qu'il y avait une vraie marge d'action sur le terrain de la prévention.
Ouais.
Donc c'était tout à fait intéressant de développer une activité qui, à l'époque, était très peu développée dans les grands cabinets.
Ah oui, vous étiez peu nombreux à faire ce que...
Oui, c'était une activité commerciale nouvelle.
Oui. Donc pour vous, enfin, ça a été compliqué aussi de commencer cette activité.
Ah, c'était un autre monde.
C'était un autre enjeu.
Oui, puis j'étais un peu une martienne dans ce monde-là, bien sûr. Ouais, hein. Je venais d'un monde pesamment hiérarchisé, qu'est la justice, avec des codes qui lui sont propres. Donc, il a fallu s'adapter. C'est ça la vie. Hein.
Oui, et les codes, alors, donc, ont été complètement différents sur le plan économique.
Oui, aussi, voilà, ouais, bien sûr.
Mais d'autres codes.
D'autres codes.
Auxquels vous avez dû forcément vous adapter.
Oui, et puis ensuite, dans les années qui ont suivi, là, ça a duré 5 ans. À la faveur d'une mission qui m'avait été confiée, j'ai été sollicitée par un client, un grand client, qui était Natexis Banque Populaire à l'époque, qui souhaitait me confier le soin de créer la première direction de la conformité et des affaires juridiques du groupe. Donc, comme j'ai un peu le syndrome de la porte ouverte, j'ai accepté de faire ça.
Un grand challenge quand même.
Oui. Oui, tout à fait. Et donc là, pendant 8 ans, je me suis consacrée à exhorter à la conformité et à l'éthique les responsables de ce grand groupe bancaire international.
Vous avez toujours travaillé essentiellement pour cette activité bancaire ?
Ah non, puisque ensuite, peut-être parce que les meilleures choses ont une fin, et puis je veux dire, pour être honnête, peut-être parce que j'avais besoin d'être rassurée sur l'humanité de mes contemporains, j'ai depuis 4 ans environ maintenant rejoint l'univers mutualiste en participant activement au conseil d'administration et au comité d'audit de grandes structures d'assurance que sont Covéa et MMA.
Donc, vous continuez quand même dans ce secteur de la magistrature.
Oui, parce que bon, je mets à disposition de ces grandes maisons ce que j'ai pu acquérir d'expérience et de compétences dans mes activités précédentes.
Bien sûr. Alors, nous, on a la chance de vous avoir dans le Perche. Mais comment ça a commencé? Alors, quand ça a commencé?
Pour terminer totalement mon parcours, je disais que j'avais rejoint l'univers mutualiste, mais toutefois, je n'ai pas complètement abandonné des fonctions répressives. Puisque si on y prend garde, les mauvais instincts perdurent.
Et, pourquoi donc, dites-vous les mauvais instincts? Au contraire, c'est très bien.
Du coup, je continue parallèlement à sévir au sein de la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers, ce qui risque peut-être de ralentir mon processus de rédemption personnelle. Mais enfin, heureusement, l'activité nouvelle Sion de bijoux qui est mienne est tellement intense depuis quelque temps que j'espère en tout cas elle apportera un peu de lumière à un parcours quelque peu austère que je viens de dresser. Oui.
Alors déjà, votre installation dans le Perche, c'était la lumière.
Oui.
Vous êtes arrivée quand dans le Perche?
Nous sommes arrivés avec mon mari dans les années, en 2001.
2001, oui.
Et nous
tous deux, vous étiez parisiens à l'origine.
Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et donc, après avoir beaucoup cherché, nous avons trouvé le petit paradis dont on avait envie, besoin, qui est un moulin au bord dans une très jolie vallée.
Oui, je dirais un havre de paix. Et grâce à vous, nous avons des concerts, nous avons donc également cette exposition. Et je dois dire que quand on va chez vous, on est vraiment baigné par la beauté du paysage et la douceur de cet environnement.
Oui, c'est vrai, c'est très inspirant. Alors, pourquoi aujourd'hui je suis amenée à faire des choses si différentes de ce que je faisais avant?
Posez la question, parce que ça veut dire que vous êtes aussi bien intellectuel que manuel, parce que je dois dire, chers auditeurs, que j'ai vu les bijoux que vous fabriquez. C'est absolument magnifique, c'est vraiment un grand travail d'artisanat, de précision, vous êtes très méticuleuse et en plus une création rare.
Oui, j'ai eu envie de faire ça et surtout de créer des pièces uniques, de laisser libre cours à ma créativité. Mais en fait, au fil du temps, j'avais accumulé une vraie frustration. Ce n'est pas venu du jour au lendemain, mais cette frustration, elle était très ancienne, de ne pas pouvoir créer avec mes mains de la beauté et d'être finalement condamnée à ne manipuler que des bilans et un code pénal.
Oui.
Donc l'envie était si forte qu'elle s'est rapidement traduite en action dès lors que j'ai gagné en liberté. Et puis ça a été d'autant plus vrai, ça a été le déclencheur qui m'a orientée vers plutôt les bijoux que la poterie ou toute autre activité artistique. artistique, ça a été que il y a eu une heureuse coïncidence dans le fait que ma mère rangeait son grenier et qu'à cette occasion, elle a découvert et m'a fait cadeau de deux grandes boîtes dans lesquelles il y avait des belles perles, des magnifiques boutons, des dentelles anciennes qui avaient été accumulées là pendant trois générations dans ma famille. Et donc, ça a été probablement un déclencheur. Mais oui, c'est vrai, l'inspiration première et le déclencheur essentiel, ça a probablement été la beauté de la nature du Perche, ma passion pour le jardin, la présence très très fréquente et l'organisation très fréquente de brocantes et de vide-greniers dans le Perche, parce que je les fréquente assidûment et à chaque fois c'est une occasion de faire le plein d'idées et puis de matériaux aussi.
Oui, oui. Parce que vous avez eu ce fond, si je puis dire, mais vous continuez
à... Ah, c'est rapidement épuisé, bien sûr.
Alors, il y a encore certainement, parce que j'ai vu des choses très anciennes dans vos bijoux et je dois dire que c'est fort joli.
C'est vrai que ma démarche essentielle, quand je veux créer un bijou, c'est de redonner vie, en fait, à des objets oubliés, abandonnés, à des vieux tissus, des macramés anciens, des perles isolées. Et puis, c'est aussi d'opérer une sorte de détournement avec plus de lumière et plus de sourire, mais une sorte de détournement des symboles, de symboles religieux, de symboles militaires, et puis aussi détournement d'objets utilitaires. Par exemple, j'ai utilisé des bouchons de pêche anciens, des leurres, des mouches, des choses comme ça.
Oui, ah oui. Donc, on va retrouver tout cela dans vos bijoux. Et dans cette exposition qui aura donc lieu à Belém.
Oui, à Belém, du 1er au 12 novembre.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Thank you.
Je suis toujours avec Anne-Josée Fulgeras qui présente une exposition qui aura lieu du 1er au 12 novembre à Bellem, sous le porche qui est bien connu sur la place de l'église. Alors, nous venons d'écouter un morceau de musique que j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi avoir choisi ce morceau, Anne-Josée ?
Oh, pour une raison qui, à mes yeux, est assez évidente. Si j'ai choisi le final Allegro Vivace du trio Opus 99 de Schubert, c'est tout simplement parce que c'est un trio comme nous. Et puis aussi parce que les musiciens que sont Jean-Claude Pentier au piano, Régis Pasqui au violon et Roland Pidoux au violoncelle me semblent vraiment faire preuve eux aussi d'une très belle complicité.
Voilà. Alors justement, complicité, vous êtes trois. Qui sont les deux autres ?
Ah, les deux autres sont Anna Maria Fuensalida et Jean-Pierre Mavit, qui sont pour moi des amis, bien sûr, mais aussi des artistes dont j'admire beaucoup le travail. Je trouve que mieux que personne, Jean-Pierre sait apprivoiser la lumière, la faire douce, chaude, colorée, vive, brillante aussi. Quant à Anna Maria, beaucoup de percherons connaissent déjà ses créations textiles qui sont merveilleuses parce qu'elles savent capter la beauté, la couleur, sans négliger une part de sourire et d'humour parfois. Et j'aime énormément ce qu'elle fait, c'est tout à fait merveilleux.
Alors j'aimerais bien que vous nous reparliez un peu de Jean-Pierre Mavit parce qu'on ne le connaît pas forcément dans le Perche. Comment l'avez-vous connu ?
Comment ne pas connaître Jean-Pierre Mavit quand on est percheron ? Parce qu'il il expose très souvent. Il a déjà beaucoup exposé à Bellem. Il fait des choses tout à fait extraordinaires qui rejoignent un peu ce que je peux faire, c'est-à-dire faire revivre des objets oubliés, abandonnés, les détourner de leur vocation première. Oui. Peut-être des outils, des tamis, ou des très belles pièces de métal.
Alors qu'en fait-il ?
Eh bien, il en fait des sortes de sculptures lumineuses.
Alors,
qui filtrent la lumière. Eh bien, il est capable...
Vos coups de cœur.
Des coups de cœur, on en a eu beaucoup, mon mari et moi, puisqu'on a acquis quelques-unes de ses créations, et avec lesquelles on vit merveilleusement. C'est par exemple des très grands tamis, avec de très belles lumières installées, masquées juste ce qu'il faut, avec une pièce de bois ou une pièce de métal. C'est difficile à décrire à la radio.
On imagine.
Mais ça donne toujours une lumière magique qui se projette sur les parois et qui apporte beaucoup de douceur et beaucoup de couleurs.
Alors, les autres œuvres que vous avez pu acquérir ? Cet ami donc,
De Jean-Pierre. Oui. Nous avons également une lampe dont l'abat-jour est fait d'un œuf d'autruche. Qui filtre la lumière d'une façon tout à fait étonnante.
Ça, je l'ai vu et c'est très joli. C'est pour ça que je suis très contente que vous l'évoquiez.
Et puis, ce qui nous a beaucoup amusé avec Jean-Pierre et avec Anna Maria, c'était d'aller au bout de l'idée de la complicité. Parce que cette complicité, elle est amicale et spontanée. Mais on s'est dit, à partir du moment où nous souhaitons exposer ensemble, il faudrait donner à voir des créations communes. Alors que ce que nous faisons les uns et les autres est extrêmement différent, on pourrait penser a priori que ce sont des techniques très éloignées, il nous a paru vraiment intéressant de faire l'effort de nous rejoindre. C'est-à-dire pour moi de faire des bijoux avec les soies merveilleuses d'Anna Maria, et puis Jean-Pierre, Anna Maria et moi, de faire des sortes d'objets lumineux dans lesquels étaient intégrés à la fois les textiles d'Anna Maria et des ornements que j'imaginais pour compléter ces créations. Et ça a été amusant, intéressant, et je pense que ça ouvre des champs dès lors qu'on essaie de créer avec d'autres artistes.
Et pour en revenir toujours à vos complices, Anna Maria Fuensalida, elle habite dans le Perche également ?
Elle habite dans le Perche également, nous sommes tous les trois percherons, ce qui a énormément facilité les communications, les échanges. et donner lieu à ce que toute la préparation de cette exposition se fasse dans un cadre amical de dîner chaleureux. Et...
Oui, bien sûr. Mais encore, ces œuvres, parlez-nous un petit peu de ces œuvres.
D'Anna Maria. Oui. Alors, Anna Maria fait donc, au départ, travaille une technique assez ancestrale, assez traditionnelle de teinture. Elle a un sens de la couleur fantastique et ces techniques, c'est par exemple la momie. Alors elle vous en parlerait, elle vous en parlerait beaucoup mieux. Elle vous en parlerait beaucoup mieux que je ne peux le faire. Hein. Ça consiste à froisser et à froncer le tissu d'une certaine façon pour que avant teinture et pour qu'ensuite après teinture, le tissu déplié montre tout un paysage de dessins qui ont été pensé et conçu dès le départ. C'est quelque chose de très beau. Alors, elle fait avec ses teintures des inclusions, des très grands panneaux, etc. Ces œuvres n'ont rien d'a priori de baroque, donc elles sont très, très éloignées de l'esprit de ce que je peux faire dans mes bijoux. Mais c'est justement la raison pour laquelle ça nous amuse beaucoup d'associer tout cela.
Et qu'est-ce qu'elle va exposer alors comme œuvre ?
Alors, elle va exposer de grandes œuvres. Elle en a toujours à chacune de ses expositions, comme elle l'a fait d'ailleurs récemment à Belém, il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a 2 mois environ. C'est-à-dire des grandes inclusions, des grands panneaux magnifiquement composés. Et puis, elle fait aussi des pièces plus petites. Et puis, elle s'est amusée aussi, peut-être pour me rejoindre un peu, à créer des petits nœuds papillons sur lesquels je me suis appliquée à poser des bijoux, des ornements, de façon à renouveler un petit peu le genre du nœud papillon, le déviriliser, si j'ose dire.
Et vous-même, vous avez acquis des œuvres d'elle, dont
j'ai, oui, bien sûr, des beaucoup d'étoles, d'écharpes, de choses comme ça, bien sûr.
Ah,
et puis
oui.
Aussi, elle fait des magnifiques, de quoi constituer de très très belles tables avec
des
lins. Non, plutôt des sets. Elle fait des nappes aussi, mais surtout des très beaux sets de tables. Teint dans des couleurs ravissantes.
Et alors j'imagine que les teintures qu'elle prend, ce sont des teintures naturelles.
Bien sûr.
Alors comment s'y prend-elle ?
Alors ça,
c'est un mystère.
C'est un secret de fabrication dans lequel je préfère ne pas rentrer parce qu'elle m'en voudrait beaucoup. Je risquerais de dire des bêtises. Je suis fascinée par le résultat.
Oui.
On pourra en rester là.
Donc elle va exposer à Belém.
Oui.
Des sets de table.
Oui, je crois que là, je ne sais pas encore parce que nous allons décider ensemble, puisque nous sommes 3 et qu'il faut que l'ensemble soit cohérent et harmonieux. Nous allons décider ensemble de qui expose quoi. Et ça n'est pas encore complètement arrêté.
Bon. Alors, justement, eux ont-ils eu des vies aussi différentes que la vôtre ? Est-ce que tous deux se sont tout de suite penchés vers l'art.
Je crois que oui.
Oui.
Je crois que oui, je ne les connais pas depuis l'enfance, mais je pense que ce sont vraiment des artistes dès le départ, puisque Jean-Pierre est professeur,
professeur
de design à Paris.
De design.
Et donc, il a fait toute sa carrière jusqu'ici, toujours dans une, je crois, dans une discipline artistique. Et Anna Maria, je crois aussi savoir qu'elle est artiste depuis... Depuis tout le temps, hein, qu'elle n'a jamais rien fait d'autre que d'être artiste.
Oui. Donc, vraiment, 3 artistes qui vont montrer leurs œuvres sous le porche. Alors, peut-être, dites à nos amis qui ne connaissent ni Belém ni ce porche, comment s'y rendre ?
Alors, c'est très, très facile, puisque c'est à côté de la place de l'église.
Oui.
Donc, une ravissante place de Belém, qui est aussi la place sur laquelle se trouve la mairie. Et en haut de cette place... Il y a le fameux porche de Belém, qui est un très bel endroit. Et là, juste sur la gauche, en montant, il y a une première petite porte qui mène à un bel espace qui se trouve sur 2 étages, qui s'appelle le grenier à sel. Et c'est là que nous allons accueillir les visiteurs qui voudront bien venir.
Voilà. Et ce grenier à sel, il a quelque chose de particulier ?
C'est un bel endroit sur 2 étages avec une cheminée et puis comme tous les greniers à sel, il y a une ambiance très particulière dans ce lieu. Il est très sombre, mais pour présenter les créations qui sont les nôtres, ce n'est pas un inconvénient.
Et le vernissage aura lieu...
Que vous dire ? Alors, le vernissage aura lieu le 4, non pas le 1er, même si l'exposition démarre le 1er, mais aura lieu le 4. Bon, aussi à raison d'une petite contrainte professionnelle qui m'oblige à aller à Paris le jeudi. Donc, le vernissage, nous attendrons tous les visiteurs qui veulent découvrir nos œuvres le samedi, donc à partir de...
Samedi 4 novembre.
4 novembre, à partir de 16h30.
À partir de 16h30. Ouais. Et là, vous serez tous les trois ?
Nous serons tous les trois, bien sûr.
Bien sûr. Bien et vous sûr. Pourrez expliquer vos œuvres.
Oui.
Et je sais que votre époux est aussi artiste, si je puis dire, de temps en temps, puisqu'il organise des concerts qui sont absolument merveilleux, et tout ça pour une église. Peut-être pouvez-vous ajouter cela à nos, pour nos
oui,
auditeurs.
Oui, ça fait plusieurs années maintenant qu'il s'est engagé en créant une association qui a vocation première à valoriser le patrimoine de Monceau, le petit village dans lequel nous habitons, qui dispose d'une très belle église et dans laquelle un certain nombre de restaurations sont nécessaires. Et dans lesquelles il y a des peintures à fresques qui méritent d'être mises au jour. Aujourd'hui, pour drainer les fonds nécessaires à tout cela, il est en train de faire de cette église un lieu d'enregistrement pour des musiciens.
Ça, c'est très important de le dire parce que c'est quelque chose de nouveau dans le Perche.
Oui, oui, oui. Et cette église qui a une acoustique exceptionnelle se prête très bien à l'exercice. Et nous, par ailleurs, nous organisons depuis de nombreuses années des concerts.
Dans
notamment
cette église.
Dans cette église.
Monceau, on peut donner les dates parce que
Monceau.
Je crois que les dates sont à peu près toujours les mêmes. Ça se passe au mois de juin.
Ça se passe toujours fin juin, alors en fonction de la disponibilité de nos amis musiciens, bien sûr. Oui. Et l'association créée par mon mari s'appelle Monceau Patrimoine. Donc, et il existe un site qui est aisément consultable et qui annonce tous les événements qui sont organisés dans ce cadre. Ce site, on le trouve sur monceaupatrimoine.fr, tout simplement.
Alors, c'est merveilleux parce que vous qui avez été très important dans la magistrature, votre époux dans un autre domaine aussi très important, et vous vous retrouvez finalement dans le Perche pour mieux nous guider à travers de multiples œuvres d'art, à savoir vous avec les bijoux et votre époux avec la musique. Eh bien, un grand merci à vous parce que grâce à cela, nous pourrons aller visiter cette exposition. Je le rappelle, 4 novembre, le vernissage à 17h, et sinon du 1er au 12 novembre. C'est bien cela.
Absolument. Merci à vous, merci Christiane, et merci à Radio Grand Ciel.
Merci beaucoup, et nous aurons tous à cœur d'aller voir cette exposition. Merci.